Radio Barque, 11e de la saison, deuxième partie, nous nous retrouvons et je rappelle que notre invitée aujourd'hui est Catherine Bossis, qui est notamment 8e vice-présidente du conseil départemental de l'Aude. Et nous allons revenir très en détail tout à l'heure sur les responsabilités qu'elle exerce au sein de cette assemblée. Je rappelle aussi qu'elle est, j'allais dire accessoirement, excusez-moi, vous êtes aussi conseillère municipale à la ville de Narbonne, c'est bien ça, Catherine?
Voilà, conseillère municipale d'opposition, effectivement.
Catherine Bossis, c'est ça, merci. Alors, Michel, sondage, et avec tes stories, je dirais presque hebdomadaires, Sorel, puis Delga.
Il faut dire qu'il s'illustre dans l'actualité régionale. Alors quand même, rappeler à nos auditeurs que nous sommes exactement à 17 jours. À 17 jours. Du premier tour des élections régionales.
C'est une drôle de campagne.
Et dans le contexte national que j'ai évoqué précédemment, et qui est un contexte national qui, objectivement, rend cette campagne des élections régionales caduque. Comment peut-on imaginer que les Français, peut-être les Françaises, de notre région ou d'ailleurs, se passionnent, s'intéressent, s'informe sur une campagne des régionales qui n'avait pas encore commencé au moment même en fait, où la France est frappée par ces attentats. De sorte que j'ai écrit un billet dans un moment où je dis effectivement, voilà, il n'y a plus de campagne régionale d'ici le 6 décembre. Qu'est-ce qui va se passer le 6 décembre, justement? Question à laquelle je n'ai pas encore de réponse. Mais ce qui m'a frappé dans la semaine qui nous occupe, c'est que les trois jours de deuil national, n'étaient même pas terminés. Que Philippe Sorel, pour commencer par Philippe Sorel, organise une conférence de presse à Montpellier pour présenter et commenter un sondage commandé par lui et ses équipes, non pas un institut de sondage reconnu par la profession, mais par une société de Toulouse qui est spécialisée dans le web. Passez-moi l'expression, le web marketing. Et un sondage qui, comme par hasard, commandé par Philippe Sorel, le placerait en fait à 10% en moyenne, avant et après les attentats, parce que le sondage a été fait avec cette perspective. Et avec, dans ce sondage, une chute pratiquement de moitié du score de Dominique Reynier, une progression du Front National, oui, dont on n'avait même pas besoin en fait, d'avoir ce genre de sondage pour imaginer qu'effectivement il ne pouvait que croître depuis d'ailleurs que le sondage se produit dans cette région, le Front National ne cesse de grimper. Et une stabilisation de Delga à 19-21% et une chute aussi brutale de la liste Onesta. Franchement, présenter ce genre de sondage que j'ai qualifié de bricolé, entre guillemets, alors que les trois jours de deuil n'étaient même pas terminés, pour relancer une campagne régionale qui ne peut pas et ne peut plus en fait, se mener dans les mêmes termes et dans les mêmes conditions que dans le passé.
Traînera les pieds, forcément.
J'ai trouvé ça, mais alors, j'ai utilisé le qualificatif de déplacé, mais parce que je me retiens, et je retiens toujours mon clavier.
C'est une faute de goût qui est quand même surprenante.
Ah, c'est plus qu'une faute de goût, c'est une faute politique.
Oui, aussi.
C'est une faute politique. Et cela m'étonne, enfin, d'un garçon qui, par ailleurs, a du talent. Enfin, il n'a pas été élu maire de Montpellier, président de la métropole, comme ça, parce qu'il s'appelle Philippe Sorel. Non, il a quand même un talent et certaines qualités d'homme politique. Et là, que personne ne lui ait fait remarquer, si tant est qu'il puisse écouter ses conseillers, hein, que faire ça, c'était vraiment prendre un risque énorme, d'un point de vue, de l'image,
qui s'est donnée depuis le début. De sa crédibilité hein, de candidat.
Un homme en dehors des partis, promouvant une nouvelle république, qui...
Et presque une nouvelle morale.
Et presque une nouvelle. Oui, promouvant une morale républicaine à sa manière, qui serait justement en dehors des méthode purement politicienne des partis traditionnels. J'ai trouvé ça vraiment déplacé. Oui. Et effectivement, j'ai produit un billet assez incisif sur cette conférence de presse. Et d'ailleurs, à ma surprise, j'ai noté, à ma grande surprise, que ce billet avait été retweeté par des proches même de Philippe Sorel. Oui, ce qui prouve, même dans son entourage, il y a des garçons, en fait, et des dames d'ailleurs, qui n'ont pas supporté effectivement cette initiative et qui l'ont fait savoir en relayant, en fait, en reproduisant mon billet sur leur propre réseau. Et alors, ce qui, de ce point de vue, en fait, me rassure dans l'idée qu'il y a quand même, en fait, des personnes qui s'engagent en politique et qui sont capables d'avoir un minimum de recul par rapport à leurs propres engagements, par rapport à leur propre chef de file, pour effectivement dire et manifester ce qu'ils pensent de tel ou tel comportement.
Alors, un petit épisode sur la Delga Story, parce que là
encore...
Non,
c'est pas une Delga Story. Encore une fois, toujours la même séquence.
Oui,
Alors,
ce n'est pas un autre épisode, c'est l'épisode qui continue.
Non, mais oui, mais parce que peut-être que je suis trop sensible à ce genre de fait, en fait, de comportement, oui, dans ce genre de circonstances.
Elle te hérisse le poil, là, Michel, quand
même. Ou que je suis d'un peu trop près l'actualité... C'est, bon, les choses sont ainsi. Je tombe sur une interview de Carole Delga dans un journal numérique qui fait très suivi sur Toulouse, la région Midi-Pyrénées, qui s'appelle Actu Toulouse. Et Madame Delga dit la chose suivante. Dans la situation... Madame Delga, non pas en tant que députée, mais en tant que future présidente de la région, dit-elle. Et qui nous dit... Dans l'état actuel du pays, des menaces qui sont devant nous et qui ont produit les attentats que nous connaissons. Je vais me battre pour que la future grande région soit qualifiée de zone de défense. Une zone de défense avec in situ dans la région tout le dispositif administratif et technique pour gérer cette zone de défense. Et pourquoi, dit-elle ? Parce que dans cette grande région, nous avons une frontière terrestre avec l'Espagne de 250 km et une frontière maritime. Franchement, Jean-Claude, franchement, est-ce que nos djihadistes qui ont perpétré ce massacre, comme tous les autres, utilisent la filière espagnole, en fait, et nos côtes pour débarquer, en fait, et procéder, en fait, à des massacres dans notre capitale.
Et
franchement,
et quand bien même ça serait le cas, ça n'est pas du tout la compétence de la région.
Deuxième point. C'est ça qu'il faut rappeler. Deuxième point. Je donnerai tous les moyens qu'il faut aux collectivités locales pour améliorer, pour consolider, pour développer et assurer la sûreté de leurs concitoyens. Franchement, Jean-Claude, est-ce que l'on va proposer, en fait, est-ce que quand elle sera présidente de la région, va proposer, en fait, au maire de notre grande région un paquetage de commandos pour doter tous nos policiers municipaux afin que la sûreté, en fait, de nos habitants soit assurée. Bon, j'exagère peut-être un peu, mais j'ai tellement été choqué par ce genre de propos. Dans ce genre de situation où on doit, quand on est un politique, mesurer ce que l'on dit, faire attention aux mots que l'on prononce, ne pas créer, en rajouter dans la psychose, en fait, de la peur, en fait, et donc dans la surenchère sur les moyens. D'autant que, comme tu l'as fait remarquer, ce n'est pas du tout dans les compétences des régions.
Surtout pas à côté de ces ponts.
Qu'on laisse l'État, en fait, dans ses fonctions régaliennes, en fait, assurer ses fonctions, et jusqu'à aujourd'hui, il les exerce très bien. Laissons faire. Il y a un état d'urgence qui a été proclamé avec des mesures qui limitent les libertés publiques, qu'on aille jusqu'au bout, en fait, de ces mesures-là, en fait, et qu'ensuite l'on réfléchisse d'une manière posée, en fait, posée et sérieuse sur ce qu'il conviendrait d'améliorer dans nos dispositifs policiers, juridiques,
Au niveau de l'État.
Mais qu'on se taise quand on est candidat à une région sur des compétences et sur un sujet comme celui-là. Voilà ce que je voulais dire.
Un tout dernier mot pour conclure cette deuxième partie. Nos Qataris.
Alors, sur un sujet moins dramatique.
Nos Qataris, rugbymen. Précisons.
Dernière séance, peut-être, comme au cinéma.
La toute dernière nouvelle, c'est que ce qu'on avait dit déjà et ce qu'on savait déjà, à savoir, le propriétaire n'est pas vendeur, fermé.
Oui, on l'avait dit, comme on l'avait dit aussi, que ces Qataris étaient des oiseaux un peu bizarres, en fait, venant de l'île de Man, enfin, les anglo-américaines, bon, paradis fiscal, impossible de trouver qui est le patron, enfin, qui fait quoi, bon, etc. Mais semble-t-il, on découvre dans la presse quand même, hein, mandaté par M. Isère, un Narbonnais.
Oui, hein, bon, enfin, tout cela
M. de Bayol, un Narbonnais.
Tout cela est bizarre.
Tout ça, bon, pour conquérir un pouvoir, pour le redonner au Narbonnais. Enfin, bref, là, et on apprend aujourd'hui que Elson, l'Australien, disait N'est pas vendeur.
Voilà. Pas vendeur comme depuis le début. Ce qui, pour le moment, clôt le débat et va clore également cette.
Rapidement, Michel. Il n'y a pas très longtemps, dans la presse même, on disait je ne sais plus qui l'a rapporté. Je ferai un chèque à ce monsieur.
Là, on était dans la fanfaronnade. C'était, excusez-moi, c'était Alphonse Daudet et les lettres de Moulin et Tartarène de Tarascon.
Et là, notre Australien, il a envoyé un beau tampon, comme on dit en rugby. Je trouve que voilà, le geste est élégant et en même temps décisif. Voilà. J'espère que la séquence est close.
Et on peut marquer une deuxième pause, après quoi nous retrouverons notre invitée, Catherine Bossis.